Votre matinale info, Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
C'est l'interview politique à 8h15. Bonjour Camille Pascal.
Bonjour Pierre.
Il est d'usage que je présente mes invités, mais vous, comment est-ce que vous vous définiriez ?
Écoutez, c'est un peu compliqué. Si je dis écrivain, ça m'étonne moi-même, parce que c'était pas du tout prévu, dans mon plan de carrière. Mm-hmm. Écoutez, je pense que haut fonctionnaire, même si ça a un côté un peu vieille école, me va bien.
On dit conseiller de Jean Castex ?
Oui, conseiller du Premier ministre. Oui. Aujourd'hui, depuis quelques jours, oui.
On dit plume de Jean Castex, alors ça fait penser à écrivain public, à ghostwriter, ou c'est plus que ça ?
Non, c'est ça. Puis c'est au fond, moi, mon arrivée à Matignon est en réalité davantage une histoire d'amitié qu'une affaire politique.
Avec Jean Castex.
Oui.
Avec Jean Castex, oui. Que vous avez connu sous le mandat de Nicolas Sarkozy.
Voilà. Nous étions les bureaux côte à côte pendant 2 ans à l'Élysée.
Mais alors, c'est quoi la technique du conseiller ou de la plume de Jean Castex ? Il faut épouser les mots, la culture de Jean Castex, écrire.
Oui, il faut s'effacer. C'est un exercice. Vous savez, c'est un peu comme la traduction. C'est le même exercice. Il faut s'effacer devant la personnalité pour laquelle vous travaillez. Et toujours avoir en tête ce qui est un exercice au XVIIe siècle, on aurait appelé ça du quiétisme, hein, c'est-à-dire l'effacement de soi, pour se laisser envahir par ses expressions, sa pensée, et la retraduire, pour que lui-même, lorsque il va lire les mots que vous lui aviez préparés, se sente bien dans ce qu'il va dire.
Il y a le fond et la forme. Vous avez une passion pour une connaissance des personnages historiques. Si je vous dis Mazarin, Richelieu, évidemment, je pense à vous, d'une certaine manière, au XXIe siècle.
Oui, vous me donnez quand même bien de l'éclat cardinaliste, mais...
Mais je parle en puissance politique, est-ce que je vous en donne trop là ?
Oh oui, beaucoup trop.
Là je vais beaucoup...
Non, là,
le curseur est beaucoup trop loin.
Beaucoup trop loin, Richelieu et Mazarin, d'abord ils ont construit l'État, ils ont construit l'État tel que nous en sommes les héritiers, et ils ont conduit réellement la politique du royaume. C'est pas du tout.
Qui n'est pas votre cas.
Ce n'est pas du tout mon cas. Je peux éventuellement donner un conseil de ci, de là.
Lequel, par exemple, le dernier que vous avez donné ?
Le dernier que je lui ai donné, nous avons parlé. Qu'est-ce que je pourrais. Au moment du Covid, on a beaucoup discuté ensemble de la décision qu'il allait prendre et sans rentrer dans des détails.
Donc juste son intervention à Matignon, alors que ça devait être l'intervention d'Olivier Véran, on parle de cette intervention-là ?
Oui, enfin notamment de sa préparation de l'émission de France 2.
Ah oui, voilà. donc cette semaine-là.
Oui. Voilà, et donc nous avons beaucoup échangé. Alors je peux pas évidemment rentrer dans les détails, mais plus. De toute façon, moins de secret état. Par exemple, c'est après la mort de Niki Linak, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a dit, oui, tu as raison, il faut que je fasse une déclaration. Voilà, c'est comme ça. Si vous laissez dans la conversation, en réalité, hein,
C'est pas aussi préparé, vous lui donnez
non.
pas un texte en disant,
non.
voilà, je vous ai écrit
non.
ça.
Non.
Vous parliez de l'émission de France 2. Quand Jean Castex se prend les pieds dans le tapis en disant qu'il n'a pas téléchargé Stop Covid car il ne prend pas le métro, comment est-ce que vous réagissez ? Vous tombez de votre chaise ?
Pas du tout.
Mais il n'aurait jamais dû dire ça.
Non, au contraire.
Ah bon ?
Je pense qu'au contraire, il fallait dire la vérité. Voilà. Alors, est-ce que c'est une erreur, pas une erreur, de télécharger Stop Covid ? Personnellement, je ne l'ai pas téléchargé.
Ouais.
Et je pense que c'était.
Est-ce que le
Premier ministre. Non, mais le Premier ministre se présentait aux Français pour la première fois réellement.
C'est vrai.
Je pense qu'il y avait une chose au-dessus de tout, c'était de dire la vérité. Voilà. Et je suis convaincu que ce que certains analystes, commentateurs, toujours bien informés et qui ont à peu près le sens politique d'une pioche, expliquent en disant « Oh, quelle erreur, quelle etc. », je pense qu'en réalité, les Français se sont dit « Lui ne nous ment pas. Même si ce n'est pas à son avantage, il ne nous ment pas. » Voilà. Ça, je pense que c'était très important. Alors après, ça veut dire que... Mais ça veut dire que tout n'est pas préparé, ça veut dire que les, comme on dit aujourd'hui, les spin doctors, les conseillers en communication, ne préparent pas tout dans une émission comme ça. Et heureusement, Et il a gardé une sorte de spontanéité dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est assez rarement répandue dans le monde politique.
Vous dites de Jean Castex qu'il est un élu de la diagonale du vide. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il vient de cette France dont personne ne parle jamais et qui a beaucoup perdu ces 30 dernières années. À la fois, si on la prend dans sa partie nord-est, qui a perdu une grande partie de ses activités, notamment industrielles. Et si on prend sa partie sud-ouest, qui est très enclavée depuis longtemps, et au fond, très très éloignée des préoccupations des élites parisiennes.
Oui, donc c'est le grand discours de la politique générale mi-juillet qui faisait référence à la France des territoires. Est-ce que vous partagez cette idée de la France des territoires théorisée par le géographe Christophe Julli, qui n'a pas exactement les mêmes convictions politiques que vous?
Je la partage, non seulement je la partage, mais j'ai fait en sorte il y a presque 10 ans que de le présenter à Nicolas Sarkozy.
Donc comme quoi, les clivages sur le papier sont pas forcément...
Alors je vais vous dire, je pense que...
Dites-moi.
Lorsqu'on a affaire à un écrivain ou à un intellectuel qui fonctionne sans idéologie, c'est-à-dire que, plus exactement, qui a une culture, qui a une pensée, qui a un travail, qui n'est pas idéologique, et qui donc est sincère, le dialogue est possible. Ce qui est impossible aujourd'hui dans notre pays, c'est de parler avec des gens qui n'ont ni culture, qui ne travaillent pas, et qui ont remplacé tout ça par des réflexes idéologiques. Ça, c'est tragique, parce qu'en réalité, vous êtes face à des gens qui régurgitent un plat mal digéré. Et qui, en plus, ils sont fortement attachés, puisque si on leur enlève cette idéologie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Alors ça, c'est tragique.
Alors...
Julli est un homme qui a dit la vérité. Il a dit la vérité. Il peut être d'extrême gauche ou très à gauche, ça c'est pas mon problème.
Alors parlons justement d'idéologie, ou en tout cas de conviction, puisque c'est pas exactement la même chose. Vous défendez-vous l'identité nationale? Vendredi prochain, le 2 octobre, Emmanuel Macron prononcera son discours sur le séparatisme. Est-ce qu'il y a un consensus entre l'Élysée et Matignon là-dessus?
Oui.
Oui. J'ai oui. Juste droit à un oui.
Oui.
Oui. Oui.
Mais il vaut mieux,
Oui. Et quand quand le Premier ministre dit les ennemis de la République ne gagneront pas, bien sûr, c'est vis-à-vis de l'attaque qu'on a eue vendredi dernier, c'est vous qui l'écrivez, ça,
non.
Ou c'est Jean Castex lui-même?
Non. Pour être tout à fait franc, le Premier ministre était en déplacement dans le 93. Il devait en effet prononcer un discours que nous avions préparé ensemble. Il n'a pas pu le prononcer parce qu'il a dû partir immédiatement à Beauvau, puis sur les lieux de l'attentat. Et donc, il s'est débrouillé tout seul. Et heureusement qu'il n'a pas besoin de moi en permanence à ses côtés.
S'il y a consensus, ça veut dire que vendredi prochain, théoriquement, le discours d'Emmanuel Macron vous conviendra, ou en tout cas sera selon vos convictions.
Ce sera le discours du président de la République.
Bon, merci pour cette réponse, Camille Pascal. Les intrigues que vous évoquez dans La Chambre des dupes, c'est le livre que vous publiez, qui est en lice pour le Goncourt, auraient pu se tenir dans les palais de la République que vous fréquentez. Ça vous fait quoi, cette mise en abîme?
Je pense que Alors, il y a deux choses. Il y a une distance, évidemment, historique par rapport aux événements de 1744, qui est gigantesque. Ce ne sont pas les mêmes mentalités, ce n'est pas évidemment le même système politique, ce n'est pas la même société.
Mais ce sont les mêmes lieux, est-ce que ça vous gêne?
Oh, ce ne sont pas tout à fait les mêmes lieux.
Vous parlez des jeunes élus en trottinette, par exemple. Ils les fréquentent, ces mêmes lieux, est-ce que ça vous gêne? Est-ce qu'il y a un problème là-dessus?
Mais sur quoi? Pardon, je ne comprends pas très bien votre question.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une dépréciation des valeurs, que vous fréquentez ces mêmes lieux dont vous parlez dans vos livres? Et pourtant, aujourd'hui, la politique, la res publica n'est pas du tout...
Ah ben, elle n'est pas la même, mais c'est
l'évolution.
C'est l'évolution du monde. Je serais un peu étonné si demain, en me rendant rue de Varennes, je tombais sur Monsieur de Matignon, par exemple. Là, je me dirais que j'ai peut-être commencé à perdre la raison.
En tout cas, merci pour cet entretien, Camille Pascal. Trop court, malheureusement, mais on peut lire La Chambre des dupes. C'est votre livre chez Plomb. Et on écoutera attentivement le Premier ministre, puisque vous êtes sa plume.
Merci à vous.
Merci, Camille Pascal.